Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire est en train de travailler et je ne vois pas comment des inspecteurs peuvent conclure avant cette agence sur les effets éventuels de la 5G.
La 5G qui sera bientôt une réalité, elle est au cœur d'un désaccord entre l'Élysée et les écologistes.
Quel impact sur la santé, quelles conséquences sur l'environnement? Un rapport sur toutes ces questions vient d'être remis au gouvernement. On vous en détaille le contenu dans quelques secondes.
Les départs volontaires chez Airbus ne suffiront pas à traverser la crise. Inquiétude des salariés après l'annonce de leur PDG.
Une très lourde peine pour le journaliste algérien Khaled Drareni, condamné à 2 ans de prison à Alger.
En Algérie, il est devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse. Reporters sans frontières se mobilisent en ce moment même à Paris. Nous serons sur place.
Les bons chiffres de la sécurité routière pour le mois d'août, mais pas pour les cyclistes dont le nombre de morts, nous le verrons, progresse.
Enfin, la Bourse de Paris a terminé ce soir en légère hausse de 0,32% à 5067 points.
Et puis la tendance météo avec Anissa, un peu plus nuageux demain, Anissa.
Oui, ça concerne principalement les régions montagneuses avec même des orages demain après-midi. Il fait toujours chaud. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On en entend parler depuis des années. Elle fera bientôt partie de notre quotidien. La 5G, une 4G puissance 10 qui permettra de regarder des vidéos à très haut débit, de télécharger des films en quelques minutes. Bref, ne pas y aller, ce serait le retour à la lampe à huile et au modèle Amish, selon Emmanuel Macron.
Une déclaration qui fait enrager les 70 élus qui réclament un moratoire sur son déploiement. On en a déjà parlé ici même. Le temps d'étudier l'impact, disent-ils, sur la santé ou sur l'environnement.
Et justement, nous allons faire le point sur toutes ces questions avec vous, Clément Le Saffre, vous êtes le spécialiste des nouvelles technologies pour Europe 1. Un rapport commandé cet été par le gouvernement a été remis aujourd'hui. Que dit-il ?
Elle dit trois choses. La première, c'est que la 5G est une technologie dont on pourra difficilement se passer avec l'explosion du trafic Internet. Les réseaux 4G seront saturés d'ici 2 ans. Il faut donc passer à l'étape d'après. Deuxième point, la France est en retard. Elle fait partie des 5 pays sur les 26 étudiés dans le rapport qui n'ont pas encore lancé d'offres commerciales de 5G. Nos voisins sont partis et nous sommes encore sur la ligne de départ. Enfin, le rapport assure que les ondes ne présentent pas de danger pour la santé, du moins dans l'immédiat, car la 5G passera par des fréquences qu'on connaît bien et qui n'ont jamais posé de problème. En revanche, il faudra des études plus poussé, dit le rapport, pour analyser les effets des fréquences plus élevées qui seront utilisées à partir de 2024.
Alors on l'a dit, il y a aussi les opposants. Restez avec nous, Clément. On va écouter la réaction de Stéphane Kerschkoff. Il est délégué général de l'ONG Agir pour l'environnement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas convaincu par ce rapport.
Un rapport d'inspection curieux qui arrive à point nommé, qui prend le contre-pied des agences qui travaillent sur le sujet. L'Agence nationale des fréquences qui aujourd'hui a mené des expérimentations sur la 5G qui démontre une augmentation de l'exposition liée à l'arrivée de la 5G. Quant aux impacts sanitaires, l'Agence nationale de sécurité sanitaire est en train de travailler et je ne vois pas comment des inspecteurs peuvent conclure avant cette agence sur les effets éventuels de la 5G.
La polémique repart de plus belle, Clément Le Saffre. Alors qui croire ?
Eh bien, dans ce dossier, c'est un peu compliqué. Ce que dit Stéphane Kerschkoff est juste. Il y a bien des études sanitaires spécifiques en cours en France en ce moment. Les premières conclusions sont attendues dans les prochains mois. Elles viendront en fait compléter le rapport publié ce matin qui lui est fait par les inspections, les administrations. Et ce rapport reste quand même solide hein, dans le sens où il s'appuie sur des expériences en conditions réelles à l'étranger dans des pays où la 5G est déjà une réalité. Par exemple, en Corée du Sud, qui est le pays le plus avancé dans ce domaine, dans le centre-ville de Séoul, l'exposition aux ondes est équivalente à 2% de la norme acceptable. Pour le gouvernement, c'est donc l'ultime feu vert. À Bercy, on le martèle. Hors de question de faire un moratoire. Il n'y a pas de contre-indication majeure à l'heure actuelle et on a déjà pris beaucoup trop de retard.
Merci Clément Le Saffre pour cet éclairage. La crise économique liée au Covid, on en voit chaque jour les effets. C'est au tour d'Airbus. Son PDG Guillaume Faury prévient les départs volontaires ne suffiront pas à atteindre les 15 000 suppressions de postes nécessaires à traverser la crise que connaît le secteur de l'aéronautique.
Alors concrètement en France, c'est 5 000 postes qui sont concernés par le plan de départ volontaire. Y aura-t-il des départs contraints et si oui, combien ?
Autant de questions qui tournent en boucle dans la tête des salariés de Toulouse. Benjamin Péter.
Oui, et ce mail de Guillaume Faury adressé à tous les salariés n'a pas vraiment permis d'y répondre. Pire, il a ravivé les inquiétudes. Dans ce courrier, le PDG explique que la crise sera plus profonde et plus longue que prévu. Et dans le dernier paragraphe, il ajoute qu'il est peu probable que les départs volontaires suffiront. incompréhensible pour Lancelot qui travaille sur la 320.
On nous parle de licenciement, de baisse de trafic, crise plus profonde qu'espérée. Nous, sur le 320, ce qu'on voit surtout, c'est la charge de travail, elle est là, on travaille, on n'a pas de jours chômés dans la semaine. Et du coup, on se pose beaucoup de questions. Voilà, on parle de licenciement, nous, on ne comprend pas. Et nous, on aimerait bien savoir, c'est bah, demain, qu'est-ce qui va se passer demain?
3000 salariés ont déjà indiqué qu'ils réfléchissaient à quitter l'entreprise volontairement. Alors pour Florent Velletti, la CFTC, cette annonce du PDG est prématurée.
C'est vrai que c'est assez violent. Les salariés ont pris un coup de massue derrière la tête. Nous, notre objectif, ça reste de faire zéro départ contraint. Et là, clairement, notre patron nous dit que ça ne suffira pas. Nous, dans l'esprit de négociation, c'est qu'on doit chercher des solutions tous ensemble. Et là, on a l'impression que, ben, bon, fatalement, on ne va pas avoir le choix, donc il va falloir le faire. Ça, on ne peut pas s'en contenter de cette position.
D'autant que les syndicats attendent également beaucoup de l'accord sur l'activité partielle de longue durée, le fameux dispositif du gouvernement qui devrait permettre de sauver 1300 à 1500 emplois.
Merci Benjamin Peter, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Toulouse. Les laboratoires commencent à craquer, files d'attente, heures supplémentaires, colère des candidats aux tests. Rajoutez à cela une prime Covid jugée insuffisante, les employés de 20 laboratoires biofusion du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne et du Lot sont en grève aujourd'hui. Seuls les tests urgents sont réalisés.
Des nouvelles de Valéry Giscard d'Estaing, nous l'évoquions hier. L'ancien président de la République, hospitalisé à Paris, va mieux, âgé de 94 ans. Il souffre d'une légère infection pulmonaire, mais pas du coronavirus, affirment ses proches.
L'institutrice jugée pour avoir donné une crêpe à un élève allergique au lait a été condamnée cet après-midi à 12 mois de prison avec sursis par le tribunal de Villefranche-sur-Saône. L'enfant était décédé. Des regrets, j'en ai tous les jours, je me sens tellement coupable, a-t-elle déclaré à la barre.
Paris qui se mobilise pour Khaled Drareni. Ce journaliste algérien a été condamné aujourd'hui en appel à 2 ans de prison à Alger.
Il avait été arrêté après avoir couvert les manifestations étudiantes en mars dernier à Alger.
Il avait également critiqué sur Facebook la corruption et l'argent, disait-il, du système politique.
Il est devenu un symbole pour la liberté de la presse en Algérie, liberté défendue en ce moment même donc par l'association Reporters sans frontières dans le 3e arrondissement de Paris. Mathieu Bock, vous êtes sur place. Un portrait de Khaled Drareni a été déployé sur le mur de la mairie.
Oui, une bâche sur laquelle a été imprimée une photo du journaliste où on le voit porté par la foule pendant une manifestation à Alger. Khaled Drareni, qui a longtemps été le correspondant d'Europe 1 en Algérie. Alors pendant ce rassemblement de soutien qui compte pour le moment quelques dizaines de personnes, la mairie de Paris va prendre la parole. TV5 Monde aussi, l'un des employeurs du journaliste algérien. Et vendredi, c'est la ville de Lyon qui accrochera à son tour un portrait de Khaled Drareni sur le mur de la mairie. Des soutiens précieux pour Christophe Deloire, le président de Reporters sans frontières, organisation dont Khaled est le représentant en Algérie.
C'est évidemment un signe très positif et c'est un signal qui, j'espère, sera reçu en Algérie. Parce qu'il y a un enjeu, c'est d'arriver à faire comprendre au pouvoir algérien que cette stratégie de la cocotte minute, qui consiste à vouloir mettre, en éteignant la couverture médiatique, un mouvement populaire dans une cocotte minute et à fermer le couvercle, c'est une stratégie dangereuse, c'est une stratégie explosive et c'est une stratégie qui finalement sape la légitimité du régime.
Alors si les soutiens se multiplient en France, en Algérie évidemment, mais aussi en Tunisie ou aux États-Unis, les avocats de Khaled Drareni préparent déjà la riposte en Algérie puisqu'ils ont déjà annoncé qu'ils allaient se pourvoir en cassation.
Merci Mathieu Bock, vous étiez en direct de la mairie du 3e arrondissement de Paris.
Paris justement, dont la mairie a été mise en examen après le drame de l'explosion de la rue de Trévise, c'était en janvier 2019.
Même chose pour le syndic de l'immeuble, leur responsabilité a été mise en cause dans un rapport d'experts rendu au printemps dernier. Cette explosion au gaz, je vous le rappelle, avait fait 4 morts et plus de 60 blessés.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h10, la suite de votre journal avec Carole Ferry. Il semblerait que ce soit un effet plutôt positif, celui-ci, du coronavirus. Il y a eu moins de morts cet été sur les routes de France.
19% de moins qu'en août dernier. Alors, est-ce que vous pouvez nous mettre ces chiffres en perspective, Romain Oquet?
Alors déjà, attention, ce n'est pas le nombre d'accidents qui a diminué en août. Ce chiffre reste quasi stable. La bonne nouvelle concerne le nombre de morts, autrement dit, la gravité de ces accidents. Alors, certes, cet été, beaucoup de vacanciers sont restés en France, mais ils sont probablement partis moins loin de chez eux et ont fait moins de kilomètres que d'habitude, analyse Marie Gauthier-Melleret, déléguée interministérielle à la sécurité routière.
Les Français sont sans doute partis un peu moins longtemps parce qu'ils avaient dû prendre des congés pendant le confinement. Du coup, ils sont restés plus en ville où les accidents sont moins graves parce que la vitesse est plus faible et donc on a tout autant d'accidents, mais ils sont moins souvent mortels.
L'autre explication concerne les touristes étrangers, beaucoup moins nombreux sur nos autoroutes cet été. Les Hollandais, les Anglais, les Belges ont privilégié le nord de la France, moins de kilomètres là aussi et donc moins d'accidents liés à la fatigue en fin de parcours. En revanche, un indicateur est en hausse par rapport à l'année dernière, le nombre de piétons et de cyclistes tués dans un accident en août. La conséquence, selon les autorités, de l'explosion du nombre de vélos dans nos rues et sur nos routes depuis la fin du confinement.
Il s'est installé à la table des Français pendant un tiers de siècle. À 70 ans, Jean-Pierre Pernaut a annoncé qu'il quittait le trésor de TF1. Il avait succédé à Yves Mourousi en 1988.
Oui, ça ne rajeunit pas, ça, 1988, Yves Mourousi. On en parlera tout à l'heure, évidemment, très largement, avec les grandes voix Charles Villeneuve et Gérard Carrérou qui l'ont accompagné dans ses grandes années à TF1. Le Tour de France maintenant, et c'est un Allemand qui a été le plus fort pour gravir les sommets des Alpes aujourd'hui entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans, Axel May.
Oui, il s'appelle Lennard Kemna, à 24 ans. C'est son premier succès sur le Tour de France et seulement son deuxième succès professionnel après une victoire sur le Dauphiné il y a quelques semaines. Ce coéquipier de la star Peter Sagan a faussé compagnie à ses derniers camarades d'échappée dans la principale difficulté de la journée, à 20 km de l'arrivée. Et Kemna a franchi en solitaire la ligne d'arrivée ici à Villard-de-Lans devant un public clairsemé. Le groupe Maillot Jaune, qui avait accordé un bon de sortie à l'échappée du jour, est arrivé avec près de 17 minutes de retard et encore 10 minutes plus tard, le groupe Maillot Vert, vous savez, c'est le groupe des sprinteurs, dans lequel figurait, devinez qui, Egan Bernal, le Colombien, vainqueur sortant du Tour de France, qui avait déjà tout perdu le week-end dernier, a encore lâché du temps. Il est désormais 16e au classement général. Et à noter, pour terminer, que côté français, Benoît Cosnefroy conserve in extremis son maillot à pois devant un autre tricolore, Pierre Roland.
Merci beaucoup Axel May, et demain l'étape ira de Grenoble à Méribel. Merci Axel qui nous fait vivre ce Tour de France tous les jours sur Europe 1 aux côtés de Marguerite Lefebvre.